Imane Ras, je vous écoute.
Bonjour Bec de l'Aigle, pour vous annoncer une intervention sur la zone réglementée du Cap Morgiou à la grotte Cosquer.
Tout bien pris du Bec de l'Aigle, merci pour les infos.
Pas de courant on dirait. Hein.
Luc Van Rel, je suis archéologue, plongeur. Je m'occupe de la grotte Cosquer depuis 1995 et je suis rattaché au LAMPEA, au laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique.
Luc, on est où là, exactement?
On est dans le parc national des Calanques, à la pointe de la Voile, la Calanque de la Triperie juste à côté de nous. Donc on est vraiment sur un karst, un massif calcaire fracturé. La première particularité de la grotte Cosquer, c'est d'être là où personne ne l'attendait. Sur le littoral méditerranéen, une région qui n'est absolument pas bien documentée sur le paléolithique supérieur, surtout pendant la dernière période glaciaire, tout simplement parce que les traces ont disparu sous la mer avec le réchauffement post-glaciaire. Alors, il semblerait bien que la grotte Cosquer ait été fréquentée par tous les membres d'une communauté. On a des traces féminines, on a des traces masculines et on a des traces de très jeunes enfants, à peu près, si on se fie à la taille des mains, par exemple, des traces de mains à peu près 4 ans. On a une fréquentation quasi continue sur 14 000 ans.
Il y a une particularité aussi, c'est on est obligé de mixer le matériel spéléo, le matériel de plongée.
Donc c'est les bouteilles de plongée, mais aussi les chaussures.
Exactement.
Donc là, on est au pied d'une très grande paroi rocheuse. La grotte, elle est où, là?
L'entrée n'est pas au pied de la falaise que l'on voit, mais d'une seconde falaise sous-marine qui est un peu écartée de celle-là. Donc on descend dans le bleu, comme on dit, du bleu de plus en plus foncé. Et après, on va s'engager dans un boyau, un trajet sous-marin. Ça nécessite d'être très attentif à sa façon de palmer, parce que le moindre coup de palme orienté vers le fond va soulever ce sédiment blanc qui va se mettre en suspension et qui va priver les plongeurs de visibilité quasiment une vingtaine d'heures avant qu'ils se redéposent.
Est-ce que tu pourras me passer le petit sac rouge là-bas, s'il te plaît?
Bertrand Chazali, je suis ingénieur géomètre-topographe et je dirige les opérations de numérisation 3D dans la grotte Cosquer. Aujourd'hui, on a numérisé l'intégralité du volume qui se trouve au-dessus de l'eau à une précision, une résolution de 1 à 2 mm.
Donc là, vous allez plonger aujourd'hui dans la grotte. Avec quel matériel vous plongez là?
Alors là, aujourd'hui, on est en train de terminer la couverture photogrammétrique des parois ornées et décorées. Donc on va plonger avec nos appareils photo.
Je leur ai dit fin d'activité à 17h au Bec de l'Aigle.
Ouais, donc 16h30.
Ouais, on sera même sorti à mon avis.
Je pense.
Avant.
Bonne descente.
Merci, à tout à l'heure.
Luc et son équipe sont en train de descendre doucement vers l'entrée de la grotte Cosquer et on peut les suivre presque à la trace avec les bulles qui remontent à la surface.
Surface, grotte. Plongée terminée, Clément. On est déséquipé, on va commencer à travailler. Terminé.
Attention, parce que c'est très très glissant.
Ouais.
Faut savoir que la grotte, il n'y a rien de plat dans la grotte. C'est même se déplacer dans la grotte, c'est très très compliqué. La moitié des sols sont noyés, donc on marche dans l'eau. Il y a des effondrements et des blocs effondrés partout. On n'a pas le droit de toucher les parois, parce qu'elles sont très fragiles. Donc on est sans cesse en équilibre dans la grotte. Et une fois qu'on s'est déplacé, qu'on a atteint les zones de relevé, là aussi on attaque une deuxième épreuve physique qui consiste à pouvoir à la fois assurer l'équilibre et puis tenir notre matériel à bout de bras pour pouvoir réaliser nos mesures. Quand c'est en plus dans l'eau à 15 degrés, on a une dépense énergétique énorme. C'est très physique. Moi, les premiers temps dans la grotte, je perdais 3 kilos à chaque intervention.
Je le tiens, tu peux y aller.
Juste le temps de récupérer l'appui de...
Michel Olive, je suis archéologue à la Direction régionale des affaires culturelles de PACA. Et dans les dernières publications, on en est à 551 œuvres inventoriées jusqu'à présent. On peut observer beaucoup d'animaux, notamment des chevaux, des très très grands cerfs. Les bisons représentés dans la grotte sont extrêmement importants. Des bouquetins, des chamois, voilà. C'est vraiment représentatif de tous les animaux que l'homme préhistorique pouvait observer autour de la grotte. Et parmi ces animaux, il y a des animaux marins, des phoques, des pingouins, et ce qui est interprété comme des méduses. les éléments les plus anciens, parmi les plus anciens de la grotte. Il y a des mains noires et des mains rouges, hein, ce sont des panneaux bien distincts. La grotte telle qu'on la connaît à l'époque préhistorique était hors d'eau. À l'époque préhistorique, il y a de fortes chances pour que la grotte était entièrement ornée. Le phénomène de la montée de l'eau fait qu'on n'en a plus que le cinquième qui nous est parvenu. C'est tout ce qui est encore à l'air libre. Mais la grotte était très certainement entièrement décorée. Il y a une certaine présence dans la grotte. Bon, je suis scientifique, je ne devrais pas le dire, mais il se passe quelque chose.
Il y a une sorte de drame et de malheur dans les grottes ornées, c'est qu'il y a des dessins. On a beau essayer de se dégager de l'art, on finit toujours par avoir le nez collé dessus et à travailler sur l'art.
Il y a des centaines et centaines de mètres carrés qui ont été raclés. Et l'image que j'ai de la grotte aujourd'hui, c'est plutôt celle d'un lieu où on est venu extraire du matériau, un peu comme une mine, quoi.
Ils ont prélevé d'énormes quantités de lait de lune, qui est un état d'altération des carbonates du calcaire de la paroi, hein, pour faire simple. Et si on la presse à la main, on récupère le lait de lune, c'est-à-dire un liquide blanchâtre qui s'en écoule. À quoi servait le lait de lune? Ça, c'est un grand mystère, mais si on se fie à ce que l'on peut connaître par rapport aux écrits que l'on a assez souvent, on va utiliser cette matière pour s'enduire la peau, ce qui permet de se protéger de la vermine et des insectes qui piquent et des coups de soleil. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on met encore des fragments minéraux blancs dans les crèmes solaires pour avoir un effet plus réfléchissant. Et ça permet aussi de se faire beau.
Je te prends ça?
Avec plaisir. Merci.
Bon, et comment vous vous sentez quand vous remontez d'une mission à Cosquer?
Fatigué. Fatigué, mouillé, sale.
C'est vraiment
impressionnant. Le changement d'ambiance, on projette facilement le paysage paléo devant nous. C'est une plongée qui dure 33 000 ans quasiment. Hein.
Je vais laisser démarrer le moteur et je vais jeter l'ancre quand je vais lever le parachute.
On peut considérer que la plus grande partie de l'art connu de la grotte Cosquer aura disparu dans 150 ans. C'est l'élévation du niveau global des océans. Mais il y a d'autres causes de dégradation qui rendent l'étude excessivement urgente, notamment la pollution marine, qui perturbe énormément les datations radiocarbone. On a les panneaux qui commencent à être envahis jusqu'au niveau maximum des eaux marines par des microplastiques qui sont plantés dans la paroi. Il y a un microplastique violet à côté de l'œil du cheval 1, par exemple, tanké dans l'œil du cheval 1. Pour la grotte Cosquer, il y a urgence, bien sûr.